Il existe des personnes qui aiment bien les chiffres, mais ce ne sont pas tous des mathématiciens ou des comptables. Il y a aussi ceux qui sont accrochés au jeu de hasard, à certaines pratiques occultes, ou qui, étant superstitieux, ont des manies particulières et redoutent le chiffre 13. Cependant, il existe aussi des nombres qui, dans les textes sacrés, ont une forte connotation religieuse, comme 3, 10, 12, 40 ou encore 7 qui indiquent la plénitude, l'achèvement, le comble de quelque chose. Je donne quelques exemples. Dieu s'est reposé le 7e jour. Les armées d'Israël ont fait le tour de Jéricho 7 fois. L'officier syrien Naaman a dû se plonger 7 fois dans le Jourdain avant d'être guéri de sa lèpre. Quand Joseph dirige l'Égypte, il fait connaître 7 années d'abondance suivies de 7 années de famine. Nabucodonosor perdit la raison pendant 7 ans. Dans le Nouveau Testament, la prière du Notre Père compte 7 requêtes. Jésus a multiplié 7 pains pour nourrir une foule. Et quand il est sur la croix, il a parlé 7 fois. Dans l'Apocalypse, le nombre 7, que ce soit en chiffres ou en événements consécutifs, revient aussi très souvent. D'ailleurs, dès les premiers versets, il est question de cette Église et de cet Esprit. Je continue maintenant de lire le premier chapitre du livre de l'Apocalypse. Jean salue les 7 Églises qui sont dans la province d'Asie. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient. De la part des 7 esprits qui se tiennent devant le trône et de la part de Jésus-Christ, le témoin digne de foi, le premier-né d'entre les morts et le souverain des rois de la terre. La grâce et la paix proviennent à la fois des 3 personnes de la Trinité, celui qui est, qui était et qui vient, et Dieu le Père. Un écrit juif, le Targum de Jérusalem, utilise l'expression « celui qui est, qui était et qui sera » pour définir Dieu. Les 7 esprits qui se tiennent devant le trône font référence au Saint-Esprit, même s'il s'agit là d'une façon inhabituelle de parler de la 3e personne de la Trinité. Ces esprits se rapportent aux 7 chandeliers d'or, dont il est question plus loin. La grâce et la paix sont dispensées par le Père, par l'Esprit et par Jésus-Christ qui est appelé le témoin fidèle. Dans le livre d'Ésaïe, l'Éternel mentionne l'une des qualifications du Messie. Il dit « Voici, j'ai fait de lui un témoin pour les peuples, un chef pour commander au peuple. » Jésus a été fidèle à sa vocation en étant persévérant jusqu'à la mort ignominieuse de la croix. Il est également le témoin digne de foi et fidèle en tant que source de la révélation qui va confier à l'apôtre Jean. Jésus est toujours digne de foi et digne d'être cru. Il a dit au gouverneur Ponce Pilate, « Si je suis né et si je suis venu dans ce monde, c'est pour rendre témoignage à la vérité. Celui qui appartient à la vérité écoute ce que je dis. » Non seulement Jésus est le témoin digne de foi, mais il est également le premier-né d'entre les morts, ce qui signifie qu'il est ressuscité des morts. Le mot traduit par « premier » ne veut pas dire « premier » d'une séquence de plusieurs, car d'autres gens sont revenus du royaume des morts avant lui. Ce mot indique sa prééminence, sa supériorité. Il est avant les autres, par contre Jésus est le premier et le seul à être ressuscité avec un corps éternel glorifié, ce qui est le gage de la résurrection corporelle de tous les croyants, à commencer par ceux qui meurent martyrs pour Jésus-Christ pendant le temps de l'Église. Quand le Seigneur viendra chercher les siens, tous les croyants, qu'ils soient déjà morts ou encore vivants, seront transformés, transfigurés, métamorphosés, et ils recevront un cœur glorifié semblable à celui de Jésus. Troisièmement, Jésus est appelé le souverain des rois de la terre. Cet honneur, cette distinction est enseignée maintes fois dans toutes les Écritures. Il est le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Comme je l'ai déjà dit, dans son épître aux Philippiens, l'apôtre Paul écrit « Dieu l'a élevé à la plus haute place, et il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, pour qu'au nom de Jésus, tout être s'agenouille dans les cieux, sur la terre et jusque sous la terre, et que chacun déclare « Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père ». La suprématie de Jésus sera amplement manifestée quand il viendra pour instaurer son royaume de 1000 ans. Dès le début du livre de l'Apocalypse, Jean met en avant et en évidence la fidélité du témoignage de Jésus, sa résurrection et son règne, trois caractéristiques qui sont développées tout au long de la vision de Jean. Je continue le texte. À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père, à lui la gloire et le pouvoir au siècle des siècles. Amen. Après avoir considéré l'œuvre de Jésus-Christ en faveur des croyants, Jean entonne une prière d'adoration à la gloire du Seigneur. Jésus aime les siens d'un amour dont nous ne pouvons comprendre ni l'étendue ni la profondeur. L'apôtre Paul écrit « Qu'est-ce qui pourra nous arracher à l'amour de Christ ? La détresse ou l'angoisse, la persécution, la faim, la misère, le danger ou l'épée. Mais dans tout cela, nous sommes bien plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Oui, j'en ai l'absolue certitude. Ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances. Et rien ne pouvoir nous arracher à l'amour de Dieu qui nous a manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Cet amour s'est pleinement exprimé quand Jésus nous a délivrés de nos péchés par son sang, en s'offrant en sacrifice sur la croix pour expier mes péchés et les vôtres. Le sang que le Christ a versé n'est pas un symbole, mais une réalité qui l'a grandement fait souffrir. Dans le livre du Lévitique, on lit que l'Éternel dit au peuple d'Israël « Le sang, c'est la vie de toute créature, et moi je vous l'ai donné afin qu'il serve à accomplir sur l'autel le rite d'expiation pour votre vie. » En effet, c'est parce qu'il représente la vie que le sang sert d'expiation. L'apôtre Pierre a bien mis en avant la valeur du sang du Christ quand dans sa première épître il écrit « Vous avez été libérés de cette manière futile de vivre que vous ont transmis vos ancêtres, et vous savez à quel prix. » Ce n'est pas par des biens qui se dévaluent comme l'argent ou l'or. Non, il a fallu que le Christ, un agneau pur et sans défaut, verse son sang précieux en sacrifice pour vous. La doxologie de l'apôtre Jean est aussi la substantifique moelle de la bonne nouvelle en Jésus-Christ. À tous ceux qui croient en l'amour de Jésus pour eux et qui lui font confiance, Dieu leur pardonne et les libère de leurs péchés, de la mort et du châtiment. C'est parce que la justice de Dieu a été pleinement satisfaite sur la croix que le Père nous fait grâce. Par son sacrifice, Jésus a également fait des croyants un peuple qui lui appartiennent et sur lequel il règne. Aujourd'hui, le royaume du Seigneur est l'ensemble des fidèles qui constituent l'Église universelle. Les croyants sont appelés sacrificateurs, c'est-à-dire prêtres, parce qu'ils ont un accès direct à Dieu. Jean décrit les membres de l'Église, à peu près comme l'Éternel envisageait son peuple. Dans le livre de l'Exode, Dieu dit « Vous serez pour moi un royaume de prêtres, une nation sainte. » Une terminologie que l'apôtre Pierre reprend quand, dans sa première épître, il écrit « Vous êtes une race élue, une communauté de rois prêtres, une nation sainte. » Il est aussi intéressant de remarquer que Jésus fait des croyants des sacrificateurs pour Dieu son Père, et non pas pour Dieu notre Père. Cette distinction n'est pas une simple nuance, mais correspond à une doctrine. En effet, Jésus est le Fils éternel et unique du Père au sein de la Trinité. Une place qui n'a aucune commune mesure avec la place des croyants qui deviennent enfants de Dieu par régénération et par adoption. Finalement, Jean conclut sa doxologie par une louange au Seigneur en disant « À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. » Ce dernier mot veut littéralement dire qu'il en soit ainsi. Jésus est celui qui décide ce qui se passe sur terre, et tous les événements qui s'y déroulent concourent à sa prochaine venue. Il faut en effet garder à l'esprit que non seulement tout a été créé par lui, mais également tout a été créé pour lui. Le livre de l'Apocalypse se présente à la fois comme un roman d'aventure à rebondissements multiples et comme un film d'épouvante. Tout au long de ses pages, il renferme un suspense palpable, des drames, du mystère et des passions déchaînées. Jean décrit des catastrophes naturelles sans précédent, ainsi que les intrigues politiques qui conduisent à la montée en puissance du dictateur le plus teigneux et le plus puissant que le monde ait jamais connu. Jean nous introduit aussi dans la salle d'audience où a lieu le jugement dernier de tous les impies, anges et hommes, et il nous fait assister à l'exécution de leur sentence. Il nous fait également découvrir un nouveau monde où le péché, les larmes et la mort sont bannis à tout jamais. Et il raconte la félicité éternelle des rachetés dans la nouvelle Jérusalem céleste. Mais tous ces événements concourent à mettre en valeur la primauté et la majesté du roi des rois et du seigneur des seigneurs. Je continue le texte. Voici, il vient au milieu des nuées, et tout le monde le verra, et même ceux qui l'ont percé, et toutes les familles de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, amen. Cette déclaration de Jean réunit deux passages, l'un tiré du livre de Daniel et l'autre de Zacharie. Son accomplissement se trouve dans le chapitre 19. Après l'introduction, les salutations d'usage et un hymne d'adoration qui résonne encore. Nous abordons le vrai sujet du livre, la venue du roi des rois. Il est introduit par l'exclamation « Voici !» qui est le premier appel au lecteur à redoubler d'attention. Mais il y aura encore 24 « Voici !» Voici, il vient, est le thème du livre de l'Apocalypse, mot que je rappelle signifie justement « révélation ». Le temps présent du verbe « il vient » signifie que le roi est déjà en route, que sa venue est certaine et imminente, ce que Jean a déjà dit deux fois. Bénis soient les moqueurs dont parle l'apôtre Pierre dans sa seconde épître et qui disent « Eh bien, il a promis de venir !» Mais c'est pour quand? Nos ancêtres sont morts et depuis que le monde est monde, rien n'a changé. Ces moqueurs sont les athées de tout gabarit, les matérialistes, les évolutionnistes, tous ceux qui insistent et clament que tout peut s'expliquer par des processus naturels comme le transformisme. Bien entendu, ils rejettent la présence pourtant évidente de la main de Dieu Tout-Puissant. Cette venue de l'Éternel ou de Jésus est mentionnée plus de 500 fois dans les Écritures. Il est vrai que Jean annonce ici le grand retour de Jésus en tant que Messie qui vient pour établir son royaume. Cependant, tout croyant doit personnellement attendre le retour du Seigneur parce qu'il a promis de revenir pour chercher les siens et pour enlever son Église au ciel. De plus, il est probable qu'en disant « Voici, il vient », Jean a également à l'esprit la manifestation de Jésus qui vient pour évaluer cette église d'Asie et rendre compte à chacune d'elles de ses observations. Quand leur Seigneur retournera sur terre pour instaurer son royaume, il ne passera pas inaperçu, mais viendra au milieu des nuées. Cette mention rappelle une vision du prophète Daniel qui dit « Sur les nuées du ciel, je veux venir quelqu'un qui est semblable à un fils d'homme. » Dans les Écritures, des nuées accompagnent généralement les manifestations de la gloire de Dieu. Par exemple, quand l'Éternel donna à Moïse les tables de la loi, dans le livre de l'Exode, on lit « Il y eut des coups de tonnerre et des éclairs, une épaisse nuée couvrit la montagne, et l'on entendit un son de cornes très puissant. Dans le camp, tout le peuple se mit à trembler de peur. » Et sur la montagne, quand Jésus est transfiguré, le texte de l'Évangile, selon Luc, dit « Une nuée se forma, elle les enveloppa, et les disciples furent saisis de crainte lorsqu'ils entrèrent dans la nuée. Une voix sortit de la nuée qui disait « Celui-ci est mon fils, celui que j'ai choisi, écoutez-le !» Jésus ne reviendra pas incognito, car tout le monde le verra, même ceux qui l'ont percé. Ce sont les chefs religieux juifs qui d'un commun accord rejettent Jésus et le font exécuter par les Romains. Ces chefs sont morts depuis longtemps, et ils ressusciteront à la fin du millénium pour être jugés. Jean cite ici une prophétie de Zacharie qui dit « Ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils auront transpercé. Ils porteront le deuil pour lui comme on porte le deuil pour un enfant unique. Ils pleureront sur lui, tout comme on pleure amèrement pour son fils premier-né. Le pays tout entier célébrera ce deuil, chaque famille à part. » Au moment de la naissance de Jésus à Bethléem, seuls quelques bergers, qui forment alors le dernier échelon de l'échelle sociale, viennent voir l'enfant de Jésus. Et quand il viendra dans les airs pour chercher son église composée de tous ceux qui lui appartiennent, cette rencontre se fera en catimini. Par contre, quand il reviendra sur terre pour régner, ce sera entièrement différent. D'une part, le petit reste d'Israël tournera les regards vers celui que les ancêtres ont percé, et ce sera un mouvement national de repentance. Et d'autre part, le monde entier, même les incroyants le verront. Les Juifs seront repentants, tandis que les familles de la terre se lamenteront à cause de lui. Le mot traduit par « lamenteront » signifie « couper », parce qu'il décrit l'attitude des païens qui se tailladent les chairs quand ils sont en proie à une grande détresse. Bien que terrifiés, les hommes ne se repentiront pas, mais gémiront sur leur propre sort. Plus loin, Jean écrit « Ils ne renoncèrent pas à leur meurtre, à leur pratique magique, à leur immoralité et à leur malhonnêteté. » Après avoir peint la fresque grandiose de la majesté du retour de Jésus-Christ, pour la deuxième fois l'apôtre Jean lance un « oui, amen » retentissant, déclarant par là « qu'il en soit ainsi ». Je continue le texte. « Moi, je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. » L'alpha et l'oméga sont respectivement la première et la dernière lettre de l'alphabet grec. Jean les mentionne encore deux fois. Les Hébreux utilisent la première et la dernière lettre de leur alphabet pour exprimer une totalité. Jésus est la somme de tous les alphabets et de tous les signes qui expriment une pensée par qui il est, la parole, c'est-à-dire l'expression et la révélation complète de Dieu, ainsi que sa communication aux hommes. L'alpha et l'oméga expriment l'idée que Dieu est le commencement et la fin de tout ce qui existe, qu'il est éternel, omniscient, omnipotent, et même qu'il ordonne le déroulement de l'histoire humaine dans ses moindres détails. C'est la deuxième fois que Jean utilise l'expression inhabituelle « celui qui est », qui était et qui vient, pour désigner la première personne de la Trinité. Plus loin, Jean l'emploie une troisième fois. À la fin de l'Épître aux Hébreux, L'auteur utilise une expression équivalente quand il dit de Jésus qu'il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Jean appelle également Dieu le Tout-Puissant ou le Seigneur des armées célestes, selon l'ancienne version grecque, la Septante. Le mot pour Tout-Puissant est utilisé 10 fois dans le Nouveau Testament, dont 9 fois dans l'Apocalypse. Jésus est venu une première fois pour s'humilier. Il reviendra dans la gloire. Il est venu pour être mis à mort. Il reviendra pour détruire ses ennemis. Il est venu comme serviteur. Il reviendra en tant que maître absolu. Il est venu comme homme de douleur. Il reviendra comme roi conquérant. Seuls ceux qui anticipent et attendent sa venue, et qui le reconnaissent comme le roi légitime, jouiront des bénédictions de son royaume. Je continue le texte. Moi, Jean, votre frère, qui partage avec vous la détresse, le royaume et la persévérance dans l'union avec Jésus, j'étais dans l'île de Patmos parce que j'avais proclamé la parole de Dieu et le témoignage rendu par Jésus. C'est la 3e fois que Jean décline son identité. Il s'identifie humblement à ses lecteurs dans leur expérience chrétienne. Il partage leur salut dans la communauté des rachetés. Il partage leur foi en la venue du royaume, ainsi que l'endurance nécessaire pour continuer à servir le Seigneur dans le creuset de la persécution. Le croyant connaît l'épreuve, mais il puise dans sa confiance en Jésus-Christ la force de persévérer. Et c'est avec Jésus qu'il régnera en vainqueur. La révélation spectaculaire de Jésus-Christ rapportée dans l'Apocalypse a lieu à Patmos, une petite île volcanique de 150 km² située dans la mer Égée entre l'Asie mineure et la Grèce, et à une 100 km au sud-ouest du port d'Éphèse. Selon plusieurs pères de l'Église, comme Irénée, Clément d'Alexandrie et Eusèbe, c'est après avoir été pasteur de l'église d'Éphèse que Jean est exilé sur cette île. En fait, c'est un forçat, puisque même âgé de 90 ans, il doit travailler dans les mines. Son crime est d'avoir proclamé la parole de Dieu et le témoignage rendu par Jésus-Christ. En l'an 96, après la mort du tyran Domitien, Nerva, son successeur, permet à Jean de retourner à Éphèse. Apparemment, les empereurs romains ne sont pas tous des sans-cœur.